Nous avons vu la semaine passée la fin d'Hébreux chapitre 11, où l'auteur a passé en revue tellement d'histoires d'hommes et de femmes de foi de l'Ancien Testament. Et il a aussi parlé, comme nous avons vu, non seulement des héros victorieux de la foi, mais aussi des martyrs de la foi, ceux qui n'étaient pas vainqueurs aux yeux des hommes, mais qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Et ces personnes-là, l'auteur a dit à la fin du chapitre 11, ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ce qui nous amène à notre passage de ce soir, qui est dans Hébreux 12, les versets 1 à 3, que je vais lire. Hébreux 12, les versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré une telle opposition de la part des pécheurs, pour que vous ne vous lassiez pas par découragement. Je crois que c'est utile de commencer avec quelques explications au sujet du texte, puisque certains des mots qui sont employés par l'auteur dans le passage peuvent avoir plusieurs sens en français ou bien en grec dans la langue d'origine. Et on a donc besoin de clarifier le sens de certains passages. Et je crois que on arrivera à bien comprendre ce passage, surtout peut-être vous avez même remarqué des différences de traduction, lorsqu'on essaye de le comprendre dans le contexte plus large d'Hébreux chapitre 11 et 12, c'est-à-dire ce message qui est l'encouragement à rester fidèle et à persévérer dans la foi, malgré les épreuves, malgré les persécutions, avec les exemples de ceux qui nous ont précédés et avec les yeux fixés sur Christ. Donc ça, c'est vraiment l'idée qui dirige tout ce que nous voyons. Mais nous avons au début, il dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Et pendant longtemps, surtout quand j'étais jeune, en lisant ces mots, j'avais en tête le stade plein de ces héros de la foi. Donc on a David, on a Gédéon, on a Abraham et tous les autres qui sont dans le stade. Et ils sont en train de regarder, de me regarder en train de courir la course de la foi, et ils sont en train de m'encourager. Donc c'est un peu l'athlétissima spirituel. Et on se trouve là sur la piste des 100 mètres. Donc il y a vraiment tous les gens qui font beaucoup de bruit qui sont là. Et ça, c'est censé donc nous encourager à persévérer. Et je crois que c'est une belle image, mais c'est pas forcément ce que l'auteur essaye d'exprimer ici. Et même, c'est probablement pas le sens qui est là. Ces héros et héroïnes de la foi et ces martyrs sont des témoins. Mais dans le contexte du chapitre que nous venons de lire, ils sont témoins, pas parce qu'ils sont en train de nous regarder, forcément, je ne crois pas que c'est le sujet qui est ici, mais ils sont témoins de Dieu. Ils sont ceux qui ont témoigné de leur foi. Et ils ont rendu un bon témoignage de Dieu. D'ailleurs, le mot témoin vient d'être utilisé au début du chapitre 11, au verset 2, où on lit dans Hébreux 11, verset 2, c'est par la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage de la part de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a dit, voilà des gens que j'agrée pour leur foi. Et l'idée, c'est ici, ces gens qui ont reçu un bon témoignage de Dieu ont aussi donné un bon témoignage de Dieu. D'ailleurs, et c'est pas, bon, il pouvait pas le savoir quand il a écrit, mais le mot témoin en grec nous a donné le mot martyr aujourd'hui. C'est-à-dire la personne qui meurt pour le témoignage de sa foi. Et je crois que l'idée ici, c'est pas donc que tous ces gens de l'Ancien Testament et tous les chrétiens qui sont morts, persécutés avant, sont au ciel en train de nous regarder. Je sais pas comment la géographie céleste fonctionne avant la résurrection, mais c'est plutôt l'idée, nous avons tous ces témoins de la foi et de Dieu qui nous ont précédés, et donc nous sommes appelés à être ces témoins, ces gens qui témoignent de la foi aussi. Et je crois que c'est plutôt cette idée-là. C'est quand même un encouragement à agir, mais plutôt dans cette idée de ces personnes qui nous ont précédés ont montré par leur vie une foi active, une foi vivante, malgré les épreuves. Et nous sommes appelés à faire la même chose qu'eux et à regarder leur exemple et à continuer. Même si on va rencontrer des difficultés, même si on rencontre des épreuves et des combats, même si on rencontre la mort. Et juste une idée à garder à l'esprit, mais cette idée, on a vu tous ces exemples qui sont venus avant, tous ces gens qui étaient des témoins. Est-ce que nous allons être des bons témoins pour recevoir ce bon témoignage? Bon, on commence donc, on regarde dans le texte comment on va l'appliquer. Et il y a énormément de choses à dire. C'est un des passages les plus riches de l'Épître aux Hébreux. Mais j'aimerais partager quatre idées d'application avec nous, quatre choses qui sont vraiment importantes ici. N'aimez-vous donc, n'aimez-vous pas ce que l'auteur dit au verset 1? Nous donc aussi. Et ça, ça me frappe beaucoup quand je lis. On a vu ce beau discours du chapitre 11 et surtout de la fin avec papa la semaine passée. Quand il commence à parler de cette séquence de plus en plus rapide de témoins, de tout ce qu'ils ont enduré et que le monde n'était pas digne. Et c'est un passage si beau que l'auteur aurait pu s'arrêter à la fin du chapitre 11 et tout le monde aurait été content en disant bon, quel beau message. Mais son but, c'était pas de raconter un beau message seulement. Nous, pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous ne sommes pas encore arrivés à la conclusion. La conclusion, c'est de dire « nous donc aussi ». Nous donc aussi. Et ça, c'est une attitude très saine, hein, vous savez. Nous venons de passer en revue tous ces gens qui ont vécu avec une grande foi, hein, qui ont fait confiance à Dieu, qui ont enduré les épreuves, et ces gens qui nous ont précédés. Mais la question qu'il faut nécessairement se poser, c'est « et nous alors ?» Voilà tous ces gens qui ont vécu avec foi. Et nous, qu'allons-nous faire? Et la réponse de « et nous », c'est « bon, nous donc aussi ». Nous donc aussi. Et l'auteur aux Hébreux, qui connaissait la Bible, et surtout donc ici l'Ancien Testament en l'occurrence, en connaissant cette histoire, sa conclusion n'est pas « voilà des belles histoires de gens de foi », mais c'est de dire « nous aussi ». Nous aussi, nous allons vivre des vies. Et ça, c'est une attitude que nous devons, pas juste que nous pouvons, mais que nous devons apporter à notre temps de lecture biblique, au moment où nous entendons les histoires de ceux qui nous ont précédés dans la foi pour leur fidélité. De systématiquement nous poser la question, et nous, alors, comment allons-nous vivre cela? Et l'auteur aux Hébreux a cette perspective, que nous retrouvons par exemple chez Jacques, qui écrit dans Jacques chapitre 1, les versets 23 à 24. Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel état il avait. C'est important pour nous, lorsque nous lisons les histoires de la Bible, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, lorsqu'on passe ce temps à méditer la parole, de prendre cette habitude de toujours poser la question, et nous alors? Et moi alors? Qu'est-ce que je vais faire de cela? Et notre réponse doit être nous aussi, ou moi aussi. Dieu ne nous a pas juste donné sa parole pour nous raconter des belles choses, ou pour qu'on accepte les bonnes vérités, même si ça fait bien entendu partie du message de Dieu. Il nous donne sa parole pour que nos vies soient transformées. Et voilà ce que l'auteur aux Hébreux veut faire. Il passe en revue l'Ancien Testament, et les histoires de foi, pour que la vie de ceux qui l'écoutent soit changée. Et ça, c'est notre but. C'est que notre attitude à la parole de Dieu et à l'œuvre de Dieu dans les vies de ceux qui nous entourent nous pousse aussi à imiter, à obéir et à agir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Moi, j'aime bien un peu intellectualiser la Bible. C'est-à-dire, je la lis, j'aime bien y réfléchir, j'aime bien analyser, j'aime bien apprécier. Mais il faut avoir cette habitude de dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qui va changer cette semaine ou aujourd'hui dans ma vie parce que Dieu m'a parlé par les Écritures? Et avoir, peut-être on peut l'imprimer sur le dos de la couverture de notre Bible, nous aussi, donc, hein, qu'on va commencer à agir. Mais ça, c'est le début du message. Nous avons des exemples, nous avons des histoires de foi, mais si nos vies ne sont pas transformées, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Et donc, il continue avec cette exhortation, et ça c'est la deuxième chose que nous voyons, de dire de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enlace pour courir la course qui est devant nous. Et bien sûr, nous posons la question, comment est-ce qu'on peut courir une course si on est chargé d'un lourd fardeau? C'est presque impossible de le faire. Je dis presque parce qu'une fois, Martina et moi, on courait un semi-marathon à Nashville. Et pas très, c'était pas très rapide, mais on courait ce semi-marathon. Et il y avait une femme qui courait, elle avait peut-être 2-3 ans de plus que nous. Mais elle courait avec un sac à dos qui, on aurait dit, était bourré de pierres sur son dos. On ne voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais c'était dévossé et tout. Et c'était un sac à dos immense qu'elle avait sur le dos. Elle était en train de courir. Plus ou moins, ou d'essayer de courir avec ce sac. Et c'était pas un de ces beaux sacs de montagne, comme on voit, qui sont longs pour le faire. C'était les vieux sacs verts militaires qui sont tout ronds pour bourrer de choses. Et elle essayait de courir ce semi-marathon avec le sac militaire sur le dos, bourré de, on aurait dit, des cailloux ou des pierres qui étaient dedans. Et c'était une femme qui était beaucoup plus en forme que nous. Mais il fallait la voir. Elle était en train de suer et de transpirer. Elle soufflait, elle soupirait. Et puis très souvent, elle a dû s'arrêter pour marcher pendant qu'elle avançait. Et tout le monde l'a regardée, pensait qu'elle était folle, n'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas courir une course avec un sac plein de choses lourdes sur le dos. Et si elle n'avait pas été en si bonne forme, elle n'aurait pas pu terminer la course du tout. Bon, j'ai entendu quelqu'un lui parler à la fin de la course, donc elle n'était pas folle. Elle a dit qu'elle avait un de ses meilleurs amis qui était dans l'armée, qui venait d'être déployé en Irak. Et lui passait toutes ses journées avec cet équipement et elle voulait faire quelque chose de solidaire avec lui. Donc c'était sa manière pour elle d'exprimer son affection et sa solidarité avec lui. Mais vous auriez dû voir, tout le monde regardait cette personne, mais qu'est-ce qu'elle fait en train de courir avec cet énorme sac sur le dos? La réalité tragique, c'est nous pouvons vivre notre vie de disciples de Christ en train de courir avec des énormes sacs sur le dos. Et trop souvent, cela peut empêcher aux gens de terminer la course. Et c'est pour cela que l'auteur dit, mais débarrassez-vous, débarrassons-nous de ces fardeaux qui nous ralentissent. Et il parle des fardeaux, il parle du péché qui nous enlace. Il ne faut pas se charger de ces fardeaux. Bon, le péché, c'est comme cet énorme sac de pierre. On ne pourra jamais gagner une course avec un sac de pierre sur le dos. Si je devais enseigner ça à la colo, on serait allé dehors, j'aurais pris un des ados très en forme, j'aurais dit fais ce sprint, il revient, je lui donne un sac qui pèse 60 kilos et je le fais courir contre un jeune de 12 ans juste pour voir la différence. C'est une bonne manière de voir. On ne peut pas gagner la course avec un sac plein de pierres. Et de la même manière, le péché, si nous vivons dans le péché, c'est pas que Dieu nous dit ah, vous avez tellement péché, bon maintenant le sang de Christ ne suffit plus. Le problème, c'est que le péché va finalement nous faire abandonner et nous séparer de l'amour de Dieu. Et il parle d'autres fardeaux, et il précise pas quels sont les autres fardeaux en plus du péché. Mais moi, ça me fait penser à la parabole du semeur que Jésus raconte, et voici ce qu'il dit dans Luc chapitre 8, les versets 13 et 14. Que ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et qui ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Et là, Jésus parle de plusieurs choses qui sont des fardeaux qui nous tirent loin de Dieu et qui font finalement abandonner. Et il y a les soucis de la vie, c'est-à-dire les craintes qui viennent d'une vision du monde où Dieu n'est pas à l'œuvre, où on n'a pas confiance que Dieu prend soin de nous. Et c'est tout ce qui accapare les craintes de la vie. Les richesses et la recherche des choses du monde et les plaisirs de la vie. Et si le but de notre vie, c'est d'éviter les risques, d'éviter les dangers, si la priorité de notre vie, c'est d'accumuler les richesses ou d'avoir les meilleures expériences, les meilleurs plaisirs, bon, on va finalement s'écarter de Christ. Parce que trop souvent, le fait de chercher Christ et la volonté de Dieu de tout notre cœur n'est pas compatible avec ces autres choses. Et donc, je crois qu'une partie, il y a d'autres choses aussi, mais une partie des fardeaux qui peuvent nous ralentir et nous empêcher de courir la course, c'est d'avoir des priorités qui n'ont pas Christ au centre pour notre vie. Vivre d'une manière où chaque aspect de notre vie, de nos décisions ne reflète pas Christ. Donc la question pour nous, de nouveau, c'est que portons-nous? Est-ce que nous avons des péchés auxquels nous tenons et qui tiennent à nous et nous empêchent de courir la course? Est-ce que nous avons des priorités qui nous empêchent de mettre Christ à la première place dans notre vie? Est-ce que nous avons des relations ou des choses dans notre vie que nous savons nous tirent loin de Dieu, mais que nous ne voulons pas limiter ou mettre de côté? Bon, si nous ne sommes pas prêts à laisser des fardeaux de côté, comment savoir si nous terminerons la course? Et l'encouragement, l'exhortation sérieuse pour les chrétiens de l'époque, mais pour nous aussi, c'est de laisser ces fardeaux de côté. Bon, troisième chose, c'est, il dit, laissons les fardeaux, mais regardons à Christ. Et il y a ce message constant dans tout le Nouveau Testament, mais ici en particulier, c'est que la vie chrétienne, c'est regarder vers Christ. Et c'est important de souligner que tel était Christ, tels sont ses disciples. Et j'aime bien la traduction que j'ai lue, c'est la Nouvelle Bible Second, mais il ne dit pas que Jésus est l'auteur de la foi, mais qu'il est le pionnier de la foi. Et de nouveau, c'est une de ces questions, la traduction peut vouloir dire, le mot peut vouloir dire soit celui qui fait, soit celui qui précède, qui va en premier. Mais de nouveau, si on est dans cette optique de course et d'imitation de Christ, je crois que c'est sage de dire ici, c'est Jésus qui est le pionnier, celui qui nous précède dans la foi. Et que ça, c'est la bonne manière de lire. Parce que dans le contexte, les chrétiens sont appelés à avancer vers le but qui est Christ qui se tient devant nous. Mais Christ n'est pas devant nous parce qu'il a toujours été au ciel et qu'il nous dit « venez vers moi, venez vers moi ». Christ se tient devant nous parce qu'il est venu et qu'il a vécu en tant qu'homme, qu'il a souffert, qu'il a enduré la honte, qu'il est mort sur la croix et à travers cela ressuscité pour la gloire auprès de Dieu. Et il n'est pas devant nous parce qu'il est seulement notre ligne d'arrivée, il est devant nous parce qu'il a fait le chemin, il a parcouru le chemin de la persécution, de la mort, mais aussi de la résurrection avant nous. C'est Jésus le coureur qui a déjà franchi la ligne d'arrivée. C'est pas juste le président du comité d'organisation de la course. Il est le coureur qui nous a précédés. Et donc, ici, les chrétiens sont clairement appelés à passer par des épreuves similaires à celles que Christ a endurées, avec comme résultat final une victoire similaire à celle de Jésus. S'ils passent par les mêmes épreuves que Jésus, ils entreront dans une même gloire. Mais ils savent que c'est possible d'endurer les épreuves et les difficultés, non seulement parce que les hommes et les femmes de foi qui les ont précédés l'ont fait, mais parce que Jésus lui-même l'a fait. Et donc, Jésus est celui qui perfectionne la foi ou qui la mène à son accomplissement. Il a accompli une vie de foi dans sa propre vie et c'est ce qu'il va faire dans nos vies si nous gardons les yeux fixés sur nous. Donc, je ne crois pas que le sujet ici, c'est forcément de dire ce passage enseigne que si on a la foi, c'est parce que Jésus l'a créé dans nos cœurs. Et si d'autres n'ont pas la foi, c'est parce qu'il ne l'a pas créé dans leur cœur. Je crois que vraiment l'idée ici, c'est que Jésus est celui qui nous précède, qui est le pionnier dans la foi. C'est celui qui va dans la montagne, un peu comme les guides de montagne qui sont les premiers à trouver un chemin et qui balisent le chemin, d'accord, et qui mettent en place les objets qui garantissent que les autres grimpeurs seront capables de le suivre. Il est celui qui ferait le chemin pour les autres. Et pour revenir à cette notion de course, alors quand j'étais, maintenant je cours presque jamais, mais quand j'étais ado, je courais beaucoup. Mais j'ai décidé, je vais me mettre à courir beaucoup à cause d'une course qui s'est passée extrêmement bien, auquel je m'y attendais pas. C'était ma première bonne course de ma vie. Et ce qui s'est passé, c'était, j'avais 15 ans, et il y avait les 4 kilomètres de Lausanne. Donc, on courait chaque année. Et je suis allé à la course, m'étant préparé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et là, j'ai croisé Hugo, que je connaissais depuis plusieurs années du club de Scrabble. Et Hugo me battait chaque mardi au Scrabble. Et puis chaque fois qu'il y avait un tournoi, si j'y allais, il me battait aussi. Et c'était normal, il était le quadruple champion du monde junior en Scrabble. Mais Hugo était celui qui me battait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc j'avais un peu un complexe d'infériorité avec Hugo. Mais voici la bonne nouvelle, Hugo était très petit à l'époque, donc peut-être comme ça comparé à moi. Et je me suis dit, bon, me voici dans une bonne situation pour battre Hugo à quelque chose. Bien sûr, je suis tout souriant avec lui, hein, pas du tout. Mais je me suis dit, je vais pouvoir être meilleur que Hugo à quelque chose dans ma vie. Je vais courir plus vite que lui. Alors, je me suis dit, je vais le suivre et puis juste m'assurer que je termine avant lui. Et on commence à courir et il va extrêmement, extrêmement vite. J'avais jamais vu quelqu'un de si petit courir si rapidement, si longtemps. Mais je me suis dit, j'ai besoin de battre Hugo à quelque chose. Et je lui ai pas dit tout ça. Hein, mais la seule manière que je pouvais réussir à courir aussi vite, c'était juste de regarder ses pieds et de penser, rester à la bonne distance de ses pieds, regarder Hugo, regarder Hugo. Et donc j'ai passé presque 16 minutes juste à regarder les pieds d'Hugo, dire regarde ses pieds, regarde ses pieds, regarde ses pieds, regarde ses pieds. Et puis je crois qu'il savait même pas que j'étais derrière lui tout le long, parce que j'ai jamais réussi à le dépasser jusqu'au sprint final où j'ai passé devant Hugo et j'ai failli avoir une crise cardiaque à 15 ans en le faisant. Mais comment est-ce que j'ai pu courir ma meilleure course de ma vie à ce moment-là? C'est pas parce que je m'étais bien entraîné, parce que j'étais le meilleur coureur, c'est juste parce que j'ai regardé celui qui était devant moi et je ne l'ai pas lâché des yeux. Si j'avais lâché des yeux, c'était fini pour ça. Bon, Christ, c'est notre... Et puis après, il s'est retourné, il m'a félicité. Il dit, ah bravo, t'as vraiment super bien couru. Il est vraiment gentil. Et moi, j'ai dit merci. Et puis voilà, c'était tout. Mais voilà, Christ, c'est le meilleur coureur de la vie, n'est-ce pas? Et il est là devant nous, mais c'est plus qu'il ne nous montre pas juste les talents, n'est-ce pas? Il est en train de nous regarder et nous dire, viens derrière moi. Viens, suis-moi, suis-moi. Et si on garde les yeux fixés sur lui, quelles que soient les difficultés qui viennent, quelles que soient les épreuves, c'est possible de terminer la course. C'est possible d'être vainqueur. Mais il faut avoir les yeux sur Christ. Et ça, c'est la vie chrétienne. C'est de suivre Christ sur le même chemin que lui, il a emprunté. Paul dit dans Philippiens chapitre 3, les versets 10 et 11, que mon but est de connaître Christ, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Et il dit, mon but c'est de vivre avec Jésus, de vivre non seulement la puissance de sa gloire et de sa résurrection, mais de souffrir avec lui, de mourir avec lui, d'être dans ce chemin. Et ça, c'est plus que les apôtres, c'est tous les chrétiens. Dans Romains 8, 17, nous lisons, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Et ça, c'est la vie chrétienne. C'est de courir derrière Jésus, sauf qu'il est en train de nous regarder en même temps. C'est ça qui est extraordinaire. Mais de garder les yeux fixés sur Jésus, de le suivre, que ce soit à travers les souffrances ou les moments de gloire. Et nous savons qu'il y aura des souffrances. Et nous savons qu'il y aura la mort qui vient si Christ ne revient pas avant. Mais avec cela, l'assurance de la gloire qui vient avec lui dans la résurrection. Et donc pour nous, de nouveau, est-ce que nous cherchons à fixer Jésus du regard tous les jours? Je l'ai dit plusieurs fois, mais je ne crois pas que ce soit un hasard qu'on a quatre fois l'évangile dans le Nouveau Testament. On aurait pu l'avoir une seule fois, ou les chrétiens auraient pu en faire une synthèse, à dire, bon, on a quatre, on va couper les répétitions, tout mettre ensemble. Mais il y a une importance à voir et revoir et revoir et revoir Jésus. Et ça doit être une discipline de notre vie, de méditer les évangiles, de penser à l'exemple de Christ, de réfléchir à ses paroles, et de lui obéir. Et si ça c'est vrai, ça nous amène à la dernière chose que nous voyons dans l'exhortation. Il dit gardez les yeux fixés sur Christ, mais aussi soyez prêts et allez-y pour endurer l'épreuve. Et la vie chrétienne sera une vie d'épreuve si elle est vraiment en train de suivre Christ. Le terme qui est traduit épreuve peut aussi être entendu dans un sens sportif, d'accord? Donc c'est une compétition qui est là. Mais aussi elle peut être traduit par l'idée d'un combat. Et dans un texte juif qui a été écrit plus ou moins à la même époque que l'épître aux Hébreux, ce mot combat est utilisé pour décrire la résistance aux tortures qui sont endurées par les martyrs juifs. Et donc ce mot a vraiment une connotation de difficulté et de souffrance, mais qui valent la peine. C'est-à-dire c'est une épreuve, mais qu'on va surmonter et qu'on veut vaincre. Et nous savons que les chrétiens qui ont reçu la lettre, ils ont déjà enduré des souffrances. Pas jusqu'au sang, comme on le verra bientôt, mais ils ont beaucoup souffert. Dans Hébreux 10, versets 32 et 34, on lit « Souvenez-vous plutôt de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez livrés en spectacle, exposés aux insultes et aux détresses. Tantôt vous vous rendiez solidaires de ceux qui subissaient pareil traitement. En effet, vous avez été sensible au sort des prisonniers, et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions supérieures qui demeurent. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Bon, ça, c'est toutes les choses qu'ils ont déjà endurées. Et comme on va voir par la suite, la promesse pour eux, c'est plus de souffrance, et que ça va s'empirer. Bon, c'est pas toujours très encourageant d'entendre ça. Moi, j'ai jamais eu tous mes biens confisqués. J'ai jamais été face à l'humiliation publique et à toutes ces autres choses. Mais pour ces chrétiens qui avaient déjà beaucoup enduré, la promesse, c'est qu'il y a d'autres épreuves qui viennent. D'où le besoin de garder les yeux fixés sur Christ. Et ici, il n'y a aucune tentative de manipuler ou de mentir aux chrétiens. Il ne leur promet pas un avenir facile, ni une délivrance de tous leurs ennemis, ni des réponses positives à toutes leurs demandes dans la prière. Il leur promet la souffrance, mais avec cette souffrance, la récompense de la vie. Et ça, l'auteur aux Hébreux, il a appris de Jésus lui-même. Jésus qui a dit à ses disciples dans Matthieu 16, 24 et 25, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et se charger de sa croix, c'est d'être prêt à accepter tout de la part du monde pour suivre Christ, jusqu'à l'humiliation, la torture et la mort. Et des passages pareils nous mettent en garde contre l'erreur du faux évangile de prospérité qu'on entend parfois. Cet évangile qui dit « si nous avons la foi en Dieu et la foi en Christ, si nous savons prier les bonnes formules, si nous donnons l'argent aux bons prédicateurs, que nous aurons des vies prospères et pleines de confort matériel et émotionnel. Si nous avons juste la bonne attitude religieuse et spirituelle, nous allons trouver l'épanouissement personnel et vivre les vies que tout le monde désire vraiment. » Bon, on ne trouve pas ce message dans le Nouveau Testament. Oui, nous avons une joie qui dépasse toute intelligence en Christ. Oui, nous avons une assurance, une espérance, une joie, un amour qui vient de Dieu. Mais cela vient avec aussi des souffrances et des épreuves. Et ça s'est répété sans cesse. Jésus n'a pas eu une vie pleinement épanouie, dans le sens qu'il avait le confort psychologique et émotionnel toute sa vie, loin de là. Longtemps, il a dû lutter avec ses disciples pour qu'ils comprennent. Il devait être patient dans les souffrances et dans face au mépris des autres. Et ce n'était pas non plus l'expérience des premiers chrétiens d'avoir une vie facile. Souvent, ils ont été rejetés par leur famille, par leurs amis. Ils ont dû tout abandonner. Mais l'évangile promet quelque chose. Et c'est que la souffrance pour Christ est toujours suivie de la gloire, comme Christ avant nous. Donc, nous sommes des coureurs en route vers Christ. D'autres ont couru avant nous et ils ont tenu bon. Ils ont rendu un bon témoignage. Est-ce que nous allons faire la même chose? Et pour nous, l'encouragement, c'est de sonder chaque jour les Écritures en prenant cette décision de moi aussi. Moi aussi, je veux mettre en pratique ce que je lis devant moi. Notre but, c'est de nous débarrasser de ces choses qui peuvent nous retenir dans notre course avec Dieu. De laisser derrière nous les distractions, les péchés, les craintes qui freinent notre croissance en Christ. Nous voulons garder les yeux fixés sur Christ, le regarder et rien d'autre pour nous préparer aux choses qui viennent, aux épreuves de la vie. Et si nous faisons cela, nous savons que lorsque les épreuves viennent dans notre vie, nous serons capables, par la grâce de Christ, de les surmonter et que nous aussi nous recevrons ce bon témoignage que les anciens ont reçu. Et la gloire qui est partagée avec Christ, à la droite du Père.